La bande originale créative, ta série de l'été sur la créativité. 10 épisodes qui retracent la saison 2 des racines de la créativité. Je suis Pascal Roby, bienvenue sur ce nouvel épisode. Salut à toi et bienvenue dans ce 4e épisode de la bande originale créative, ta série de l'été sur la créativité. Et aujourd'hui, on va aborder le sujet du positionnement marketing. Et oui, je sais, le nom dit comme ça, c'est absolument pas sexy. On est d'accord que c'est pas sexy, mais pourtant, c'est un aspect crucial quand tu veux libérer ta créativité. Mais d'abord, abonne-toi aux racines de la créativité si ce n'est pas encore fait. Pour ça, bah, tu peux tout simplement t'abonner à ta plateforme d'écoute préférée, Deezer, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Encore.fm, etc., etc., etc. Ou alors, si tu ne veux vraiment pas louper ton épisode favori, ton podcast préféré, abonne-toi à la newsletter qui se trouve juste en dessous et tu recevras tous les vendredis à 18h la sortie du nouvel épisode des Racines de la Créativité. Alors aujourd'hui, donc on va parler du positionnement marketing. Et on est d'accord que quand tu mets positionnement marketing et créativité, normalement ça devrait rien avoir l'un avec l'autre. Tu dis mais c'est bizarre, quand je mets les deux mots, enfin les deux concepts ensemble, ça devrait pas aller ensemble. Et pourtant, je me suis aperçu d'une chose, c'est que cette histoire de positionnement marketing avait un rôle crucial dans ta créativité. Mais d'abord, faudrait peut-être rappeler c'est quoi le positionnement en marketing. Donc, moi, je me suis pas embêté, je suis allé à la définition d'un livre qui s'appelle Positioning, donc de Hal Riese. Et donc lui, il explique exactement c'est quoi le positionnement en marketing. Le positionnement en marketing, c'est tout simplement arriver en premier dans la tête de tes clients ou de tes prospects. Tout simplement. Quand tu penses boisson gazeuse au cola, tu penses tout de suite Coca-Cola. Eh bien, c'est exactement ça, le positionnement en marketing. Alors, ça, c'est en marketing. On parle de positionnement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu es bien positionné, ça veut dire que tu es placé stratégiquement. Tu es bien positionné, tu as ta place. Mais si on sortait du contexte du marketing, si on utilisait ce concept de positionnement dans un autre contexte. Imaginons qu'on sorte ce contexte de positionnement et qu'on le mette, on va le prendre dans les sports de combat. Moi, je viens des sports de combat, j'ai fait du jiu jitsu pendant des années, j'ai fait également de la boxe, et ça veut dire quoi, être bien positionné, avoir un bon positionnement? Bah, ça veut dire tout simplement avoir une bonne garde qui te permet de passer facilement de l'attaque à la défense et qui te demande le moins d'énergie pour frapper ou pour te protéger. Bruce Lee l'expliquait vraiment bien dans son livre Le Tao du Jeet Kune Do. C'est pour ça que quand il a voulu créer le Jeet Kune Do, qui est son art martial qu'il a créé, il a vraiment étudié la différence entre la boxe anglaise et les postures de Wing Chun et les postures d'arts martiaux traditionnels. Et il s'est aperçu que le problème des postures d'arts martiaux traditionnels, c'est qu'elles te faisaient prendre des postures absolument pas confortables et naturelles par rapport à ta constitution. C'est pour ça qu'il a préféré se rapprocher d'une garde de boxe anglaise, parce que une garde de boxe anglaise, c'est beaucoup plus stable, tu fais beaucoup moins d'efforts, et il y a juste qu'à lever les bras de la bonne manière pour être bien en posture, bien positionné pour pouvoir frapper et te défendre. Je me suis dit, mais est-ce que finalement ce n'est pas ça le positionnement en marketing? C'est pas finalement trouver sa place quand pour délivrer ton message et puis surtout pour que les gens que tu veux servir, que tu veux aider, se disent « Ah oui, mais lui, c'est vraiment la bonne personne. » Mais comment on sait que c'est la bonne personne? Parce que tu es tout simplement bien placé. Si je reprenais un autre exemple, on va prendre un exemple concret. Est-ce que, bon, c'est peut-être compliqué là, peut-être que vu à l'heure où tu écoutes, tu vas trouver ça bizarre, mais avant les magasins, il y avait un truc qui s'appelait les marchés. Et ces marchés se retrouvaient sur une place qui était dédiée dans un village qui s'appelait la place du marché. Et sur cette place du marché, eh ben, tu as les marchands qui louent la place à la mairie pour pouvoir poser leur stand et vendre leurs marchandises. Et évidemment, tu as certaines places qui coûtent beaucoup plus cher pour pouvoir s'y installer. Et tu as évidemment certains marchands qui vont dépenser beaucoup plus d'argent pour être sur ces places-là. Parce que en étant sur ces places-là, ce sont des places où tu es le plus exposé au passage des passants. Ça, c'est ça aussi le positionnement en marketing. C'est parce que tu es bien positionné sur ta place de marché. Et c'est de savoir, ok, par rapport au courant des passants, où est-ce que je suis le mieux positionné? Où est-ce que je suis le mieux placé? Je me suis dit, mais est-ce que finalement, c'est pas vraiment ça? C'est te dire, où est-ce que je trouve ma place? Et donc, ça tombe bien parce que j'ai l'extrait que tu vas entendre, c'est un extrait avec Nicolas Proupin, qui est docteur en chiropraxie. Tu vas me dire, mais attends, quel est le rapport entre le positionnement marketing, la créativité et la chiropraxie? Mais justement, tout est extrêmement lié, notamment grâce à ce qu'il appelle l'état interne. C'est parti.
On passe un cap dans l'histoire de l'humanité, où effectivement, à la fin du siècle dernier, tout était à propos de développement personnel, c'est-à-dire d'écologie intérieure. C'est-à-dire, je me concentre sur moi, je me concentre sur ma réussite. C'était JR et Dallas, c'est-à-dire, je réussis, je gagne des sous, regardez-moi comme je suis beau sur Facebook, etc. Donc, c'était un travail, et d'ailleurs, le mot le définit superbement, du développement personnel, me, myself, and I. Et donc, ce que j'aime amener de nouveau avec les nouveaux droits de l'homme et avec l'état intérieur, c'est que c'est un autre degré, c'est une autre dimension. C'est là où on accède à sa vraie créativité. C'est-à-dire qu'on vient amener quelque chose qui est de l'ordre vraiment du cœur, qui est vraiment de l'ordre de l'inspiration. Et quand on rentre dans cet état intérieur, ça fait le ménage dans notre maison, ce qui est la vraie définition du mot écologie. Et ça fait aussi le ménage autour de nous, dans le sens où, je ne sais pas si vous connaissez cette femme qui s'appelle Susan Boyle, qui, oui. Qui fait une apparition à Vous êtes une étoile dans une émission anglaise, et qui a peint un physique qui suit les modèles de beauté, des canons de beauté de l'époque. Et elle a l'air un peu ridicule parce qu'elle a un accent, elle a une attitude qui est bizarre. Tout le monde se moque d'elle. Et puis d'un seul coup, elle se met à chanter. Et là, elle rentre physiologiquement dans un état interne de plein rayonnement. Et sa voix porte dans la salle. Et tous ceux qui sont moqués d'elle ont des larmes de gratitude. Ils se lèvent, ils applaudissent, ils sont pris de l'intérieur. Et ils changent complètement d'opinion à propos d'elle. Ça, c'est l'état interne. C'est quand votre système nerveux rentre physiologiquement dans un état où toutes vos cellules, vous savez plus, vous êtes impossible. Quand elle chante, vous pouvez lui demander quel âge elle a, elle ne peut même pas comprendre la question. Elle est dans son cœur et sa réalité est un rayonnement intérieur qui est absolument différent. Et c'est tellement fort que ça touche les autres. Donc ça fait une écologie, c'est-à-dire ça range la maison intérieure, on va dire, intérieure, mais ça fait aussi une écologie extérieure. Et c'est comme un virus qui se propage de manière, j'allais dire, magnétique, de manière comme une bombe, c'est l'inverse d'une bombe atomique, c'est-à-dire que ça fait une réaction en chaîne, mais positive, enfin, mais constructive, qui votre état intérieur va toucher, votre état interne va toucher le cœur des autres. Quand vous touchez votre propre cœur, vous touchez le cœur des autres. Et que ça soit Zinedine Zidane qui marque un but décisif dans une compétition, une finale de compétition, et que vous avez des jeunes, même des gens qui n'aiment pas le football, le geste est tellement beau, il est tellement décisif que les gens, waouh, rentrent dans cet état interne. Lui rentre dans cet état interne, les autres rentrent dans cet état interne. Quand une personne, un prof, prend la parole et dit quelque chose d'absolument extraordinaire qui change la vie de jeunes docteurs, etc., il est dans un état interne, les gens sont touchés à vie par rapport à cet enseignement. Donc, que la personne soit prof, sportif, chanteur, physiologiquement, toute personne devrait avoir le droit à rentrer dans cet état physiologique et de faire le ménage intérieur, comme vous dites, l'écologie intérieure, et que ça fait une réaction en chaîne, ça fait une réaction, j'allais dire, qui se propage et qui, quand on change notre culture intérieure, ça change la culture extérieure. Et la question, quand les gens me disent « mais où tu vas avec ces droits de l'homme ?» Et si on pouvait projeter que chacun accède à ce droit-là, rentre dans cet état-là, que ça soit quelque chose qui rentre dans notre éducation scolaire et que les générations futures apprennent à trouver ce qu'il aimait dans cet état-là et que chacun puisse faire ce qu'il aime de sa vie professionnelle. Imaginons que dans 10 ans, on vive dans un monde où chacun ait accédé à ses droits, trouvé l'état interne, et que chacun fasse ce qu'il aime. Déjà, ces personnes-là ont sûrement moins besoin d'antidépresseurs ou de médicaments, parce qu'elles font ce qu'elles aiment, mais surtout, ça diffuse une culture. Et si on allait au restaurant, s'il rouvre un jour, dans lesquels les gens sont inspirés par ce qu'ils font à manger, comment ils cuisinent, comment ils servent, comment ils nous reçoivent, et que derrière, on aille, passer du temps avec des gens qui sont inspirés par ce qu'ils font, voir des artistes. Et évidemment, on ne vivrait pas dans le même monde, ce n'est pas encore notre culture. Mais c'est un monde qui est sûrement souhaitable. Donc le but des droits, c'est justement que cette physiologie, cette écologie intérieure, et qui est du coup, parce que c'est un autre degré qui dépasse le développement personnel, c'est qu'en rentrant dans cet état physiologique, on dépasse le développement personnel de soi, ça touche le cœur des autres, et là on crée ce que j'ai. Donc j'ai dû créer un nouveau mot, qui est un des autres 8 droits, mais qui est le succès global. Quand on rentre dans cette physiologie intérieure, on ne s'arrête pas à son intérêt personnel, ça touche physiologiquement, et c'est ça qui est important, c'est que c'est physiologique, c'est physique, c'est comme cette Suzanne Boyle, les gens ne peuvent pas s'empêcher d'ouvrir vraiment des larmes de gratitude par rapport à ce qu'ils ressentent. Et là, on est un succès qui devient global. Ce n'est pas un développement personnel, ça devient un succès global. C'est pour ça que je pense que ces droits sont si souhaitables, parce qu'ils sont simples, accessibles, mais ils permettent à chacun de trouver et de diffuser cet état interne.
Tu vois, c'est intéressant cette histoire d'état interne. C'est-à-dire qu'à partir du moment où finalement tu es aligné avec tes plus hautes valeurs et ce qui vraiment te fait vibrer, eh ben c'est beaucoup plus simple pour toi de trouver ta place. De partir du moment où tu es vraiment à l'écoute de qui tu es, on pourrait même parler de cet état de congruence, eh ben c'est beaucoup plus simple de proposer tes services et surtout pour délivrer ton message, parce que tu es pleinement aligné et même ton corps traduit cet alignement. C'est-à-dire que même à travers ton corps, on voit que tu es pleinement aligné, tu es pleinement congruent. Alors, mais tu vas me dire, ok, c'est marrant, peut-être que je peux le trouver d'un point de vue physiologique, mais d'un point de vue marketing, comment ça se trouve le positionnement? Alors justement, Christopher Piton va te partager sa stratégie pour vraiment bien se positionner, et donc lui, c'est sur LinkedIn.
Moi, ce que je peux te partager, c'est les fondamentaux qui guident, entre guillemets, on va dire, ma vie professionnelle au jour le jour. Et du coup, forcément, ça implique le niveau de créativité. Moi, ce qui est important, que ce soit dans la vie ou sur les réseaux sociaux ou dans l'univers professionnel, c'est vraiment ces piliers fondamentaux. Et moi, j'en ai 3. Le premier pilier fondamental, c'est de miser sur sa singularité. Chaque personne est unique, chaque personne a sa personnalité, chaque personne a ses valeurs, ses défauts aussi. Et du coup, il faut miser sur ses forces et surtout pas mettre sa personnalité au placard et se cacher dans l'ombre de quelqu'un d'autre. Donc voilà, pour moi, c'est un pilier fondamental. Le second pilier fondamental, c'est d'avoir un réseau, de créer une communauté, parce que ça te sert dans le business, et surtout parce que ça te permet aussi d'avoir des feedbacks qui sont super pertinents et importants, et ça te permet aussi de grandir. Tu vois, il y a toujours cette idée de on est la moyenne des 5 personnes, du coup, moi, je trouve qu'on est aussi la moyenne des 5 personnes qu'on suit sur le web. Parce que moi, si tu veux, j'avais pas vraiment de modèle dans ma vie personnelle, parce que je suis une famille qui est très modeste et ils sont tous plus ou moins dans le BTP. Et du coup, moi qui est dans l'univers du web, en fait, j'avais pas vraiment de référent, pas de modèle en fait sur lequel caquer. Et du coup, moi, je me suis beaucoup. J'ai beaucoup suivi des sortes de mentors en fait virtuels et notamment 5 personnes inspirantes comme ça qui m'ont aidé à progresser et à me tirer vers le haut de par leurs conseils. Qu'il soit gratuit ou payant, peu importe. Et petit à petit, voilà, je me suis dit, un jour, j'ai envie de devenir comme ces gens-là. Et petit à petit, j'ai monté en compétence et je me suis donné à fond pour essayer d'atteindre au moins quelques marches. Et puis finalement, je me suis rendu compte que ce n'était pas le résultat qui était le plus important, c'était le chemin qu'on parcourait et qui était super excitant et super enrichissant.
Mmh. Donc, je me suis peut-être perdu parce que j'ai beaucoup écouté ton histoire, mais premier pilier, donc ta singularité, le deuxième pilier, la communauté,
Ouais, et le
et le troisième
troisième
pilier.
pilier, bah, c'est miser sur une compétence qui est rare et utile et qui génère des revenus. Donc une compétence rare et utile, ça va être par exemple bah, l'écriture persuasive, l'écriture tout simplement, ou la communication orale. Et pour moi, ce sont c'est un pilier fondateur parce que communiquer, c'est essentiel pour développer son activité, pour développer des relations sociales. Et à partir du moment où tu sais bien parler, tu sais bien écrire, bah, ça t'ouvre pas mal de portes et surtout, ça te permet, à mon sens, de pouvoir encore plus s'épanouir.
Donc avec Christopher, on a vu l'aspect marketing. Et là, j'aimerais vraiment t'amener sur un autre point par rapport au positionnement. Et le truc, ce qui se passe, c'est que quand tu lances ton entreprise, on te dit, OK, il faut le positionnement et puis il faut cet aspect identité. C'est-à-dire que quelle est l'image que tu vas projeter à tes futurs clients, à tes prospects? Quelle est l'image que tu veux donner? Et bon, ça a un mot particulier, on appelle ça le branding. Ou quand t'es tout seul, le personal branding, ça veut dire, oh, mais que vont dire les gens de moi quand ils voient mon logo, quand ils voient mes contenus, ou quand ils voient ma tronche de cake? C'est exactement ça, le personal branding. Et ça, tout un rapport avec ton positionnement. Parce que la façon dont tu te positionnes sur ton marché, bah, va donner une impression, va donner un sentiment, une image. Et un mauvais positionnement, ben forcément, va donner une mauvaise image. D'où l'intérêt, comme je t'ai, voilà, comme je t'ai partagé avec Nicolas Proupin, ben d'abord d'être bien positionné en toi, d'être placé dans ton état interne. Ben parce qu'à partir du moment où tu es dans ton état interne, ben c'est beaucoup plus simple de te sentir bien placé, déjà en toi, mais ensuite par rapport au marché et par rapport aux clients que tu veux aider, que tu veux servir. C'est bizarre, ça paraît peut-être ésotérique ce que je te partage, mais en tout cas, c'est ainsi que je le vis, c'est ainsi que je peux l'expliquer pour l'instant. Il y a vraiment, bah là on va vraiment parler d'alignement, c'est putain, je me sens bien dans ma peau, je me sens vraiment aligné, ce que je fais correspond à ce que je pense, et étrangement, quand je suis dans cet état-là, eh ben c'est beaucoup plus simple pour moi, ben, d'aller identifier les gens que j'ai envie d'accompagner, mais surtout, je suis beaucoup plus facilement identifiable pour les gens qui me reconnaissent et qui, en tout cas, qui savent qu'ils vont avoir besoin de mes talents. Et en parlant d'identité, ben, je vais te faire écouter l'extrait avec Thomas Burbidge sur justement ben, notre capacité à nous coller des étiquettes et à savoir aussi gérer notre transformation. C'est parti.
Je pense que c'est aussi une grosse question de notre identité personnelle. En tout cas, de celle qu'on se colle. Moi, je vais te partager une de mes croyances ou convictions. Je laisse les gens choisir le mot. C'est que on a déjà tout ça à l'intérieur de nous. Joseph Campbell, dont le travail, je suis sûr que tu le connais bien, il parle d'un héros aux 1000 visages, qu'on est tous un héros aux 1000 visages ou aux 1000 masques. Ce qu'il entend en partie par ça, c'est que on a des milliers de personnalités différentes à l'intérieur de nous qui peuvent se révéler à différents moments et de différentes manières. Et très souvent, on s'identifie à une ou partie d'entre elles. Ce qui fait qu'on se met de côté de plein de ressources qu'on a à l'intérieur de nous, mais on s'auto-convainc qu'on ne les a pas en se disant, mais non, ça c'est pas moi. Moi je suis pas quelqu'un de créatif, comme tu disais très bien juste avant. Et rien que cette croyance sur nous-mêmes, ça devient une sorte de prophétie autoréalisatrice, où comme je pense que je ne suis pas créatif, ben, je vais pas aller accéder à mon potentiel créatif qui est bien caché à l'intérieur, qu'on a foutu bien au profond dans les tiroirs de notre être. Et donc, je ne pose aucune action créative. Si je suis convaincu que je ne sais pas dessiner, pourquoi est-ce que j'irais dessiner? Je ne vais pas aller dessiner. Du coup, les résultats qu'on a, c'est des résultats de merde qui nous remontrent que, ah ben non, t'es pas quelqu'un de créatif, tu sais pas dessiner. Si je dessine une fois tous les 4 matins en disant, oh non, c'est vrai, je vais essayer et que j'y arrive pas, et que je me redis que c'est parce que je ne sais pas dessiner, évidemment que j'apprendrai jamais. Du coup, je pense que c'est aussi une grosse question de si tu te dis que t'es pas créatif, évidemment tu le seras pas. Et la base, à mon sens, du truc, c'est commencer à changer sa définition personnelle, comment on voit notre propre identité, pour petit à petit s'autoriser à se dire, en fait, si, il y a une part de moi que j'ai laissée dans l'ombre pour l'instant, qui est réellement créative et qui peut muscler ce muscle et développer cette compétence de la créativité, une fois que je me suis autorisé à voir qu'en réalité, je suis créatif. Et on l'est tous, à mon sens. Tous les êtres humains le sont. C'est juste qu'on laisse de côté cette partie de nous en s'auto-convaincant que c'est le cas, que c'est pas le cas.
Non mais ouais, très clairement, très clairement, et il y a deux, enfin il y a plusieurs choses là sur lesquelles je pourrais rebondir. Bah ouais, non mais c'est ça le truc, voilà,
C'est un
c'est
choix.
ouais. T'inquiète pas, je sélectionne, j'ai un cerveau qui sélectionne bien, donc ça va. Et puis bon, après deux, trois après quelques interviews, je commence à un peu maîtriser le sujet. Et en fait, c'est ce changement d'identité. Ça me fait penser en fait au niveau logique de Dilthe. Voilà, c'est les niveaux logiques de Dilthe, donc c'est un modèle en fait de comportemental et de coaching qu'a inventé donc Robert Dilthe, donc il s'est formé à la PNL, et en fait il s'est inspiré, je crois, des travaux de Gregory Bateson, si je ne me trompe pas, donc les niveaux logiques de Dilthe, et normalement je crois qu'il y en a 6. Et en fait, en haut de la pyramide, il y a l'identité. Tu vois, il y a le niveau d'identité. Le sommet de la pyramide, c'est ce qu'ils appellent le niveau spirituel. En fait, c'est tout simplement le sens. Tu parlais du pourquoi. Eh bien, c'est exactement ça. C'est ce niveau de pourquoi. Et derrière ce pourquoi, il y a une identité. Et là, en fait, à ce niveau-là, l'identité, en fait, elle est fondamentale parce que derrière, comment tu te définis va découler derrière des valeurs, des
Ouais, évidemment.
croyances, des pensées,
Ma capacité à faire les
Des
choses, tout ça.
capacités, voilà, des émotions, des
Comment je me
comportements,
comporte.
comment tu te comportes, et ça va ensuite influencer, tu vois, si on descend tout en bas, en fait, ton environnement. Et donc, les résultats que tu vas obtenir. Donc, oui, l'identité, en fait, et j'en parlais, en fait, il n'y a pas longtemps avec, alors, ce n'était pas une abonnée, mais quelqu'un que j'ai découvert sur LinkedIn, qui, justement, était en transition, ça faisait 20 ans, tu vois, qu'elle était dans son activité, donc elle était journaliste. Je ne dirai pas ton nom, t'inquiète pas, mais voilà, ton exemple en fait me parle beaucoup. Elle était journaliste et elle disait, ben voilà, maintenant j'ai lancé mon activité et maintenant en fait c'est compliqué pour moi en fait de me mettre en avant parce que moi en tant que journaliste, moi j'étais élevé à l'ancienne et il fallait toujours mettre mon invité en avant et moi je suis pas du genre à me mettre en avant. Je fais, mais oui, mais le truc c'est que là, tu n'es plus journaliste. Tu n'es plus uniquement journaliste, mais tu es également chef d'entreprise, puisque tu as lancé ton activité. Donc, ce n'est plus uniquement, on va dire, les personnes que tu interviews, que tu mets en avant, mais c'est aussi toi. Et ça, c'est un changement d'identité que tu dois faire. Et tu
Taf.
vois, c'est 20 ans, tu vois, de métier qu'elle a. Donc, savoir écrire, tu vois, donc interviewer les gens, elle sait faire. Mais juste, en fait, ce change, en fait, cette identité-là de dire je suis pas encore en fait indépendant, je suis pas encore chef d'entreprise, ça a comme conséquence je peux pas me mettre en avant. Tu vois, c'est fou comment en fait une croyance en fait une croyance ou on va dire une définition, parce que là on est plus de l'ordre de la définition de son
Ouais,
identité
qu'on se donne à nous-mêmes. Ouais.
qu'on se donne à nous-mêmes en fait, les conséquences que ça peut avoir en fait dans ta vie de tous les jours, hein, juste
C'est
dans ta vie de tous les
clair.
jours, même pas au niveau professionnel, juste dans ta vie de tous les jours. Et tu as utilisé un mot qui s'appelle la permission. Il y a des gens qui parlent de lâcher prise. Moi, je vomis ce mot, je préfère parler de permission. Parce que bon, pour faire simple, hein, j'ai fait un podcast pour expliquer pourquoi je n'aimais pas le mot lâcher prise. Dans lâcher prise, en fait, le mot français, c'est pas possible. En fait, dans le mot français, c'est un oxymore, le mot lâcher prise, parce que c'est lâcher prise. Comment tu veux que le cerveau il comprenne un truc comme ça, pareil, tu vois? Dans le même mot, tu donnes deux ordres différents à ton cerveau. Lâcher prise. Oh! Le cerveau, en fait, le cerveau, il dit, tu racontes quoi là? Je peux pas là, je peux pas, c'est pas possible. Le cerveau, il comprend pas la négation. Lui, il comprend que la voix active et positive. Donc, tu lui dis lâcher prise. En plus, c'est deux ordres différents. C'est pas possible. En anglais, lâcher prise, ça s'appelle letting go. Donc, c'est-à-dire, bon, ben, laisser partir, laisser aller. Il dit, tiens, ça c'est marrant, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant. Et je lui dis, mais Qu'est-ce qui permet de faciliter, tu vois, se laisser partir, se laisser aller? Et souvent, c'est la permission que tu te donnes. Donc pour moi, tu ne lâches plus, tu ne fais plus de lâcher prise, mais tu te donnes la permission de. Et
Tu
on parlait de
t'autorises
changement.
à.
Voilà, je t'autorise à. Et même, c'est même plus je
Enfin, je
t'autorise, c'est.
m'autorise à.
Eh oui, je m'autorise à. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en français, là, petite référence au langage des oiseaux,
Ouais,
quand
j'allais le
tu dis.
faire.
Ouais!
Tu te souviens de
Je.
Chantal dont je parlais tout à l'heure?
Oui.
Ben Chantal, elle avait sorti ça. Je quand tu m'autorises, quand tu je m'autorise et c'est le fait du coup de je te laisse faire la deuxième moitié.
Motorisé, mais dans le sens moteur. C'est-à-dire, voilà, moteur, ce qui me fait avancer. Quand tu te donnes la permission, quand tu m'autorises, quand je m'autorise, eh ben, je m'autorise à y aller. Et donc, ouais, c'est vraiment important et c'est souvent, en fait, ce petit verrou mental qui permet en fait
Ouais.
après de tout découler derrière. Alors depuis le début de ce podcast, on a parlé voilà, de positionnement marketing, donc d'arriver premier, on a parlé de posture, on a parlé, voilà, t'as eu des stratégies sur bah, comment bien te positionner sur LinkedIn et puis surtout sur cet aspect identité, voilà, de savoir que tu es en perpétuelle transformation. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que mais par rapport à ton positionnement, c'est pas parce que tu es bien positionné aujourd'hui que tu ne seras pas obligé de bouger à un moment ou un autre. Mais le plus important, c'est que tu dois, tant que tu restes dans cet état interne, quel que soit le mouvement que tu fais, partir du moment où tu es bien positionné, ça passe. Parce que les fondations, la base est toujours présente. Et cette base-là, bah, c'est ce positionnement. Tu peux bouger, tu peux te décaler, mais tant que le positionnement est bon, bah, c'est OK, ça passe. Alors, je vais te partager maintenant un exemple de ce qui se passe quand tu es bien positionné et quand tu as bah, trouvé cet alignement. Et cet alignement, c'est Pierre Blanc-Sanoun qui nous le partage. C'est quand il a découvert l'approche narrative, cette approche qui va réunir trois de ses passions. C'est parti.
Et puis en 2000, en 2004, j'ai un collègue, copain, qui m'a dit, est-ce que tu as déjà entendu parler de l'approche narrative? Et évidemment, j'en avais jamais entendu parler. Et il me dit, bah, y a Michael White qui vient faire un séminaire en France. Donc, c'est intéressant l'été prochain. Et il me dit, écoute, je sais que tu as trois vies. Tu as une vie de coach, une vie d'écrivain et une vie de musicien. Mais je pense que l'approche narrative, ça te permettrait de relier tes trois vies pour en avoir une seule et faire ces trois choses-là dans un même cadre. Donc, c'était quand même assez alléchant. Et je suis allé faire ce séminaire et ça m'est tombé dessus. Je suis vraiment tombé en amour avec les approches narratives, même si j'y comprenais pas grand-chose à l'époque. C'était un peu complexe, mais je savais que c'était ça que j'avais envie de développer pour pendant très longtemps. Voilà.
Ben alors justement, pour les personnes qui ne connaissent pas l'approche narrative, en fait, c'est quoi l'approche narrative?
Ben, l'approche narrative, au départ, c'est une approche de thérapie familiale et sociale qui vient d'Australie et de Nouvelle-Zélande. C'est-à-dire que c'est une forme de thérapie, mais c'est une thérapie du collectif. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on sait de la thérapie en Europe, qui est beaucoup inspirée de la psychanalyse, Freud, le cabinet de Vienne, et qui est de la thérapie individuelle. Donc déjà, c'est une forme de thérapie sociale qui met le collectif avant l'individu. Ça, c'est un premier élément intéressant. Et puis le deuxième élément, surtout, c'est que l'approche narrative considère que nous nous racontons tout le temps des histoires, des récits, nous nous rattachons tout le temps à des histoires et à des récits pour donner un sens à notre vie et à notre expérience. Donc c'est un peu comme si nous étions des romans vivants, des romans sur pied. Et que notre tête est pleine d'histoires. Et ce qui nous
D'accord.
permet de prendre des décisions, ce qui nous permet de donner du sens à ce que nous voyons, à ce que nous faisons, c'est vraiment cette capacité cette capacité à nous raconter des histoires et à échanger des histoires avec les autres, qui est nous sommes la seule espèce fabulatrice, hein, comme dit Nancy Huston dans le livre du même titre, du même nom, c'est l'espèce fabulatrice, nous sommes une espèce qui raconte des histoires. Donc l'approche narrative, bah, elle consiste à regarder ces histoires et à aider les personnes et les groupes et les familles à s'orienter à l'intérieur de ces histoires pour trouver les récits qui rendent plus fort et se débarrasser des récits qui nous emprisonnent. Je ne sais pas si c'est clair d'expliquer ça comme ça en 2 secondes. Mais ben, je suppose que Martine Compagnon en a parlé également, parce que c'est une...
Oui, ben, bien sûr. En fait, moi, ça me rappelle 2 choses. La première, c'est que finalement, en fait, nous sommes la somme en fait, de toutes les histoires qu'on se raconte.
Oui, exactement. Et...
qu'elles soient personnelles ou collectives, hein, donc, c'est-à-dire ben, celles qu'on se raconte nous-mêmes, mais celles aussi qu'on nous a implantées, enfin... et tout ce qui appartient également à l'inconscient collectif. Et par rapport à l'être humain, qui est l'homme en tout cas, qui est le seul animal à raconter des histoires, ça m'évoque également l'anecdote que j'avais partagée avec mon camarade Mathias Savary sur le Cro-Magnon. Comment Cro-Magnon en fait a réussi à dépasser Néandertal. Et ça, c'est grâce au livre Sapiens de Yuval Noah Harari. Qu'il explique très bien.
Ah, bien sûr, oui, tout à fait.
Voilà. En fait, il explique que au départ, Cro-Magnon, en fait, ne fait pas le poids face à Néandertal. Le truc, c'est qu'il y a une différence majeure, c'est qu'il a une capacité, c'est de créer de la fiction.
Absolument, c'est exactement ça. Et voilà. Cro-Magnon ne sait pas bien faire ça, et que à partir de Néandertal et surtout sur l'Homo sapiens sapiens, qu'on devrait appeler l'Homo sapiens narrativus, il y a cette capacité de notre cerveau à provoquer des hallucinations volontaires. C'est-à-dire que nous avons la capacité d'halluciner, comme si l'argent existait, comme si les entreprises existaient en dehors du récit qu'on en fait. Cette capacité-là, c'est notre plus grand génie, c'est le plus grand génie de l'Homo sapiens, et c'est par là qu'il va disparaître aussi. Parce que c'est ce qui permet d'halluciner l'ennemi quand dans une guerre ou dans un génocide. J'ai été amené à travailler au Rwanda sur des chansons narratives, justement. Dans un génocide, on arrive à halluciner une partie de la population comme des animaux, tu vois. Au Rwanda, c'était des cafards. Pendant la guerre avec les Juifs, c'était des rats. On redéfinit, on déshumanise l'autre en le redéfinissant comme un animal nuisible. Et les personnes qui s'engagent dans des actes de génocide ou dans des actes de violence, ils hallucinent l'autre comme étant un nuisible, comme étant plus humain. Et ça, c'est une capacité que seule notre espèce, c'est ça qui a permis à notre espèce de devenir dominante. Parce que comme le dit Harari, que tu citais précédemment, Pascal, ce qui a permis à l'Homo sapiens de dominer le monde, entre guillemets, c'est d'avoir la capacité à halluciner des projets qui permettent de fédérer des centaines ou des milliers d'individus, alors que jusque-là, il y avait de simples petites communautés de chasseurs-cueilleurs qui dépassaient pas les 20 ou 30 personnes.
Ouais, c'est exactement ça. C'est vraiment cette capacité, vraiment, qu'une histoire peut souder en fait un groupe d'individus, et c'est comme ça en fait, c'est le principe des mythes, de la mythologie, donc mythologie grecque, romaine, et même en fait des religions, hein. Ce sont des histoires en fait que l'on transmet, voilà, de génération en
génération. J'irais même plus loin, je dirais même qu'un groupe, ce sont des personnes reliées par des histoires.
Ah oui, très clairement, mais très clairement, parce que même déjà entre 2 individus, il y a une histoire qui se crée, et donc des histoires qui vont se créer. Alors, à l'échelle collective, c'est clair que là, ça devient un paquet de nœuds, en fait, et ça devient un paquet de livres, en fait, à raconter et surtout à lire derrière.
Ouais.
Ah oui, donc oui, ça doit être passionnant, oui. Donc, pour l'artiste que tu es, le musicien, et en même temps, le coach,
C'est clair que l'approche narrative, c'est la connexion entre tous les mondes que tu connaissais.
Ben, d'autant plus qu'il y a toute une partie de l'approche narrative qui consiste à produire des documentations poétiques, chose d'ailleurs dans laquelle Martine Compagnon excelle. Et
ah oui.
La documentation poétique, c'est aussi la chanson. Donc j'ai fait un certain nombre de... J'ai été formé par David Denborough, qui est un Australien, un thérapeute australien et musicien, qui a inventé les chansons narratives, c'est-à-dire d'écrire des chansons, avec recueillir les paroles des personnes et des groupes et des familles, et à partir des paroles qu'on a recueillies, sans les trahir, écrire des chansons à partir de ces paroles pour pouvoir leur restituer de façon honorante. Voilà, ça c'est la documentation poétique dans l'approche narrative, et ça évidemment, ça m'a tout à fait passionné. La première fois que je suis allé en Australie, la première formation que j'avais faite, c'était celle-là, et vraiment j'étais le plus heureux du monde, quoi.
Ah bah oui, 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 c'est-à-dire que tu vas créer des chansons en plus qui vont aider des autres. Donc ça veut dire que toi qui as envie de te sentir utile, tu fais « Attends, là je suis en train de découvrir en fait que ce que j'aime faire le plus, à savoir donc la musique et puis raconter des histoires, je peux en plus, ça peut me servir pour être utile, pour aider d'autres personnes. »
C'est l'équation parfaite pour moi.
Ah ouais, non mais très clairement. Et puis en plus, ces chansons, elles doivent avoir aussi
un effet cathartique en plus. Pour
complètement. La chanson, elle a un effet cathartique. La chanson, elle est hyper portable. C'est-à-dire que c'est extrêmement facile ensuite de la transmettre c'est un format collectif en même temps. C'est-à-dire que c'est un format quand tout le monde chante, tout le monde est garant de l'identité qui est encapsulée dans la chanson. Et tu retrouves des chansons dans toutes les religions, dans tous les groupes, dans tous les groupes sociaux et même générationnels. Le rock and roll, c'est quoi? C'est un mouvement musical qui permet à une génération de se définir de façon identitaire. Bon, faut pas trop que je me lance là-dessus parce que je peux en parler des heures. Mais si tu veux, pour les auditeurs de ton podcast, je pourrais t'envoyer une chanson que j'ai faite en entreprise.
Ah oui.
C'est-à-dire que c'est une chanson pour un service dans une entreprise qui n'était pas du tout entendu, dont la voix n'était pas du tout entendue, et donc j'avais interviewé les gens de ce service et ils m'avaient demandé de faire une chanson, et du coup j'ai fait un gros rock avec du gros son parce que justement on n'arrivait pas à les entendre, et donc ça leur a permis de se faire entendre un petit peu mieux, et puis d'être honorés dans leur intention de bien faire, tu vois.
Ah oui. Ah oui, donc en plus, même la chanson peut être même le reflet, enfin si on était Alain Cardon, ce serait même le reflet du système dans lequel ils sont en train de vivre. Ah ouais, bien.
Parce que dans le coaching, quand tu coaches avec l'approche narrative, il y a toujours une dimension de redocumentation des paroles des personnes qui sont dans le groupe.
Ah ouais,
on les redocumente sous plein de formes différentes. Hein. Moi, j'adore le faire sous forme de chanson parce que c'est paroles, musique, et puis ensuite, je peux l'enregistrer. J'ai un home studio chez moi. Mais ça peut être de la poésie, ça peut être du dessin. C'est-à-dire que l'approche narrative, elle intègre tous les formats créatifs d'expression artistique possibles.
À partir du moment où il y a une histoire à raconter.
Et tu peux la raconter sous n'importe quelle forme. D'ailleurs, avant de s'appeler la thérapie narrative, le premier nom de cette thérapie, c'était la thérapie littéraire, tu vois. C'est-à-dire que Michael White et David Epstein, qui sont les deux grands génies fondateurs de cette approche, au départ, ils travaillaient sur la métaphore du texte, et donc leur premier livre s'appelait « Les moyens littéraires au service de la thérapie ». Et ensuite, c'est un livre qui a été édité par un tout petit éditeur en Australie, et ensuite, quand ça a été repris par l'éditeur Norton pour les États-Unis, l'éditeur a changé le titre. Il a dit « Ah, les moyens littéraires, c'est un peu réducteur, pourquoi pas les moyens narratifs ?» Et c'est de là que vient le nom de thérapie narrative, qu'on a appelé ensuite en France l'approche narrative, parce que ça a intégré le coaching.
Voilà, cet épisode sur le positionnement marketing est maintenant terminé. C'est un épisode qui est un petit peu différent des autres, parce que il y a tellement de choses à dire sur ce sujet-là. On pourrait en parler pendant des heures, mais c'est un vrai sujet, le positionnement. C'est vraiment... c'est plus important que faire ta promotion. Et je déconne pas, et pourtant, j'ai fait un podcast sur le marketing, et dans les prochains épisodes, on va parler comment oser montrer ton travail, et ensuite, comment se lancer dans la création de contenu. Mais pourtant, le positionnement marketing est plus important que tout le reste. Parce que, bah, je reviens aux fondamentaux, à partir du moment où tu es bien positionné, quelles que soient les tempêtes auxquelles tu fais face, quand tu as pris une position et que bah, tu es bien ancré, bah, c'est ok, parce que quelles que soient les tempêtes que tu vas te prendre dans la gueule, ta position fait que tu vas pouvoir résister et même ça va passer tranquille. Donc c'est vraiment un sujet super important. Peut-être qu'un jour j'en ferai un livre, c'est possible, je me l'interdis pas, parce que c'est vraiment important. Et en tout cas, voilà, si tu dois retenir une chose, c'est si tu as du mal avec cette histoire de positionnement en marketing, utilise le mot positionnement dans d'autres contextes. Et moi, je l'utilise dans le domaine des arts martiaux, dans le domaine des sports de combat, mais ça vaut dans d'autres domaines. Prends par exemple en musique. Si tes doigts ne sont pas bien positionnés, ton accord va sonner faux. Et ben, c'est exactement la même chose en marketing. Si tu es mal positionné, ton discours va sonner faux. Donc, voilà, j'espère que vraiment bah, cet épisode t'aura aidé à mieux comprendre et à vraiment bah, t'intéresser à ce sujet qui est le positionnement en marketing. Si tu veux retrouver l'intégralité des interviews et donc des extraits que j'ai passés donc avec mes quatre camarades, les liens se trouvent dans la description, juste en dessous. Et voilà, si tu veux me dire à quel point tu as apprécié cet épisode, bah, tu peux tout simplement t'abonner à ta plateforme de podcast préférée. Tu peux également le partager à une personne voilà, qui est sensible au sujet de la créativité et pour qui c'est vraiment important bah, d'améliorer sa créativité et surtout de mieux gérer sa créativité. Et puis enfin, si c'est pas encore fait, abonne-toi à la newsletter qui se trouve juste en dessous. Et donc la semaine prochaine, on va se demander mais comment oser montrer son travail? Parce que souvent, en tant que créatif, bah, on fait des trucs, on crée des choses, mais parfois on a peur de le montrer au monde. Alors justement, on va se demander comment est-ce possible de montrer son travail. Je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode, et à demain matin dans ta boîte mail. Salut!